Merci beaucoup pour cette intervention et pour ce voyage que on vient de traverser à travers ces trois communications, Pays Basque, Grèce, Turquie, la Corse et les Amériques. Peut-être, Paul Thomas, vous auriez pu rester ici, ainsi que Eneko et Stelios, de manière à peut-être interagir avec le public et qu'on puisse vous poser certaines questions. Et dans le même temps, puisqu'on allie le scientifique et le technique, laissez placer la visio pour qu'on se connecte avec Naples. Je ne sais pas qui s'en occupe, mais en tout cas, venez. Ok, donc peut-être une question à Paul Thomas, excusez-moi, puisque vous venez de terminer la communication, vous nous avez parlé du fait que finalement ce répertoire est mis en patrimoine, devient une mémoire, et vous avez évoqué certaines identités qui peuvent être déclinées, vous n'avez pas eu le temps de ça, peut-être vous laissez le temps de l'évoquer de manière à compléter votre exposé.
Oui, volontiers, merci beaucoup. Il y en a beaucoup. La première à laquelle je pensais, peut-être pour rebondir sur la présentation de ce matin, je me souviens que la présentation de Wanda Massor avait terminé sur Pansetta Paradise. Donc un groupe de garage rock d'Ajaccio, un jeune groupe de garage rock. Garage rock qui n'est pas forcément quelque chose qu'on associe à l'identité musicale corse, celle qu'on la conçoit aujourd'hui. Mais ils sortent aujourd'hui, d'ailleurs, je pense, un album qui s'appelle Garage Reacquisto. Voilà. Et bon, Garage Reacquisto, on a vraiment le mariage de deux identités, de deux ensembles d'identités qui sont, semble-t-il, antagonistes. Mais le liant là-dedans, eh bien, c'est la langue. Voilà, la langue corse que forcément on inscrit du garage rock dans la chanson corse, dans la tradition corse, grâce à la langue. Et je pense, et on ne sait pas trop pourquoi, par exemple. Est-ce qu'on pourrait faire du garage rock corse en parlant simplement de la Corse, mais en chantant en français? C'est une vraie question. Force est de constater que cette identité musicale qui nous vient du Reacquisto, par exemple, produire en langue corse, peu importe sur quoi on produit, mais produire en langue corse, eh bien, on s'inscrit indéniablement dans une tradition, un continuum de patrimonialisation qui nous vient du Reacquisto, qui est encore perceptible aujourd'hui. C'est comme ça qu'on conçoit la chanson corse, peu importe le genre musical auquel on se rapproche, on se raccroche.
Moi, j'aurais deux questions. C'est sur Rigir.
Oui.
Parce qu'à la fin, tu as évoqué Rigir, sauf que dans Rigir, il n'y a pas de chanson.
Pas de chanson.
Alors, pourquoi ? Je ne sais pas.
Ouais, non,
mais pourquoi, s'il n'y a pas de chanson, donc c'est Rigir ou c'est à la revue il y a très peu de textes à chanter. Il y a pas Jean-Paul Paulette, il ne publie pas dedans. Nadal Oujani non plus. Alors il peut y avoir Fouzine, etc. Mais il y a très très peu de textes de Rigir ou qui sont devenus des chansons. On a l'impression qu'ils ont tout fait pour que ce ne soit pas le cas d'ailleurs. Première question. Une deuxième question. À la fin, tu évoques les institutions au début et à la fin dans ton dernier tableau. Je voudrais te poser la question. Est-ce que les droits culturels, est-ce qu'ils ont joué un rôle ou pas? Rien à voir.
Merci. Oui, alors pour Rigir, et c'est pour ça que j'ai tenu à nuancer, mais vous avez raison de le souligner, pas de musique. Ce qui m'a intéressé, c'est la philosophie derrière, justement, c'est la création. Et je trouve que c'est quelque chose qui se retrouve encore aujourd'hui, c'est-à-dire que ce marqueur identitaire de la langue et ce fait de produire en Corse, peu importe ce qu'on produit au final, c'est quelque chose qu'on retrouve dans Rigir à une époque où la chanson corse, on produisait le renouveau de la chanson corse s'incarnait surtout par produire en langue corse. Voilà. Et je trouve que c'est une philosophie qui a infusé d'autres canaux de diffusion, d'autres médias, d'autres façons de produire. Il y a une analogie entre les deux, mais c'est vrai que stricto sensu, il n'y a pas de musique. On retrouve simplement une analogie, je trouve, entre la philosophie de production du monde musical et de Rigir, enfin du début de la littérature écrite. Et la seconde question, pardon, je m'en souviens plus.
Les droits culturels.
Alors, les droits culturels, qu'est-ce que tu entends ?
La question des droits culturels. Par exemple, là, tu fais débuter le fil historique après la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
ça finit par les institutions. Qu'est-ce qu'elles font pendant ce temps-là? Est-ce qu'elles donnent des droits culturels? Aujourd'hui, c'est dans la loi en France.
Oh,
on a l'impression que ça se tient
micro.
Micro, sinon, ça passera pas.
Parce que tu commences par les droits culturels, enfin tu commences, pardon, par les institutions, alors qu'en Corse on peut avoir le sentiment qu'en fait, Félix Oukvilidji, c'est déconnecté quelque part du Racuche, ça aurait quand même eu lieu s'il n'y avait pas eu de collecte. Voilà, je ne sais pas s'il y a un lien, disons, de cause à effet, je ne suis pas certain, et quant à la chevauchée en R5, je ne suis pas sûr qu'ils aient collecté énormément de chansons, parce qu'en fait, Kanta, ils ont surtout créé. Kanta et tous les autres, justement, le Racuche, ça a été plutôt la création que... trois chansons par-ci par-là, mais très peu, disons, de collectage, semble-t-il. Et la question que je te pose, parce que ça va être l'objet d'une autre rencontre de demain concernant les droits culturels, pour savoir un petit peu, alors c'est à toi, ça peut être aussi à une écho, hein, ça peut être aussi aux autres concernant justement les différents territoires aussi, l'impact nul, hein, ou je sais pas, ou non nul, plus ou moins fort sur les territoires, de la question des droits culturels, qu'ils soient formulés de façon consciente ou inconsciente, ou en tout cas telle quelle. Alors l'expression droit culturel, on la retrouve à peu près nulle part, nous, dans le corpus du Réacuiche, etc. Il n'y a à peu près personne qui utilise ça. Par contre, la question de la culture est partout. Voilà. C'est à peu près, y compris dans les différents statuts particuliers de la Corse, et plus ça va, plus la culture occupe une place importante. Alors on n'utilise pas le terme droit culturel, et le terme droit culturel, par contre, l'expression, elle apparaît dans la loi NOTRe sur la nouvelle organisation de la République en 2016. Alors, il y a quand même un enjeu, disons, alors qui est plutôt formulé de façon plutôt objectivée, disons. Hein. Et je voulais te demander, du coup, dans quel est le lien, disons, peut-être entre ces processus de patrimonialisation et droits culturels. Je pense que une troisième question, c'est lorsque Deborah me présente des chansons qu'elle considère comme traditionnelles, et pour moi, elles ne sont pas vieilles, elles ne sont pas traditionnelles, et ça a été un peu mon actualité. Alors, on n'a pas 50 ans d'écart, mais... Des fois, je me dis, bon, on prend des éclats. Alors, se pose la question, comment est-ce qu'elle doit les catégoriser? Est-ce que, du coup, il y a une forme de subjectivité, de relativisme aussi, en termes de patrimonialisation? Voilà.
Merci. Absolument. Donc, pour revenir donc, sur la première question... c'est vrai qu'il y a tout ce mythe autour de l'influence directe ou indirecte du le musicologue qui va récolter les musiques qui vont être ensuite réadaptées. En fait, on sait très bien maintenant que c'est un mythe. Les travaux de Kulich n'ont pas influencé directement le Réacuiche. Ils étaient même complètement indisponibles au grand public jusqu'en 82, il me semble. Hein. Il y a même eu un combat mené par des militants pour rapatrier, je dirais, les enregistrements de Kulich qui étaient entreposés à Paris pour les entreposer en Corse à la DRAC à l'époque. Ça, pas avant 1982. Alors, il y a le récit de Kulich qui aurait diffusé, fait écouter ses enregistrements aux universités d'été dans les années 70, aux militants à l'époque. Reste, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il y a cette mythification de la figure du folkloriste fondateur. Et la deuxième, oui, c'était les voyages dans le boat. C'était... Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de substantiel qui sort de ça, qui est réinjecté dans le mouvement pour la production, pour la création? Je ne sais pas, j'aurais tendance à dire que non, mais je dirais que le mouvement, et en tout cas la perception qu'on a aujourd'hui de cette trajectoire, elle se nourrit de ces mythes et de ces légendes autour de la façon dont ces musiques nous sont parvenues. Je pense que c'est important dans les deux cas, même dans le folk revival, il y a beaucoup de biais, beaucoup de raccourcis, et on tend un peu à simplifier l'histoire pour glorifier un peu le statut de ces musiques. Sur les droits culturels, c'est-à-dire que...
Je pose cette question aux autres, hein.
Le vipong, la question, les grands cavaux, je ne saurais pas te dire s'il y a une analogie. En fait, j'ai du mal à définir les contours de la notion de droit culturel. Je ne l'ai pas encore... Sur le sujet de la subjectivité, bien sûr.
C'est
un résultat. En tout cas...
La période sous François Mitterrand, avec Michel Bourré, il y avait des grands... Jacques-là. Sous François Mitterrand.
Oui. C'était au
artiste vidéo.
Micro.
Ah, c'est Maurice Fleuret qui l'a mis en place. Et puis, bon, bref. Il y a eu beaucoup de... Voilà, il y avait le CA de musique traditionnelle qui a été mis en place. Donc, il y avait mon père, il y avait Nicole, il y avait un breton. Voilà, bon, bref. Chacun, chaque région de France qui voulait y participer à passer ce diplôme, c'était pour être professeur de conservatoire. Et donc, c'est vrai que sous François Mitterrand, mais de la même manière qu'il y a eu des progrès pour les prisonniers, il y a eu beaucoup de progrès en politique culturelle, en tout cas. Alors, est-ce que le droit culturel, c'est pareil ?
Merci pour ces précisions. On voudrait peut-être poser des questions aux deux autres invités intervenants. Donc, peut-être Enrico, vous... Eneco, pardon. Décidément, je vais toutes les faire aujourd'hui. Vous avez mentionné le renouvellement des références, l'adaptation de la cohésion sociale à travers le champ. Est-ce qu'au vu de toutes les modifications, qui font d'ailleurs écho aux autres interventions, et de toutes ces adaptations, on peut observer des modifications de forme aussi dans les formes de mise en scène, dans les corporéités? Est-ce qu'il y a eu aussi un besoin de s'adapter à ces contraintes macro-sociales ou autres?
Oui, clairement, la scène a changé au niveau de la forme en tout cas, pas que de la forme. Maintenant, il y a quelques années encore, quelques spots, quelques lumières, et il n'y avait pas beaucoup plus de mise en scène. Maintenant, on voit des spectacles qui peuvent réunir 15 000 personnes plusieurs fois. Donc ça, c'est nouveau. C'est nouveau de pouvoir remplir une salle de 15 000 personnes avec un groupe de musique basque. Ça crée des débats. Ça crée des débats parce que il y a une poignée de groupes ou de chanteurs qui peuvent basques, qui peuvent remplir des salles énormes, et des dizaines et des dizaines de chanteurs et chanteuses, de jeunes normalement, qui ont peut-être plus de difficultés à faire face à ça, parce que les frais de production sont plus élevés qu'avant, parce que maintenant on est plus exigeant au niveau du son, au niveau de la lumière, de la mise en scène, etc. Donc là, il y a un débat parce que au niveau du budget, ceux qui organisent les concerts et ceux qui ont les moyens d'organiser les concerts, c'est-à-dire les municipalités, etc., préfèrent en ce moment mettre une grande partie de leur budget annuel, du petit budget d'ailleurs, du petit budget annuel de la culture, au groupe dont ils vont faire peut-être 10 000 personnes, etc. Et donc là, il y a un déséquilibre. Mais c'est un débat tout récent. Hein. Et donc, pour revenir à la question, oui, il y a un changement au niveau de la scène, de la corporalité. C'est plus travaillé qu'avant. Avant, c'était juste chanter et jouer de la musique. Maintenant, il y a plus de mise en scène.
Est-ce que la forme modifie le fond? En tout cas, la perception du fond.
Est-ce que la forme modifie le fond? Bon, il y a modification du fond, bien entendu. Je ne sais pas si c'est parce que la forme a modifié le fond, peut-être pas. Je pense que ça va de pair. C'est-à-dire, quand on a changé de thématique au niveau de la chanson, les formes aussi ont changé. Mais c'est peut-être pas... il faudrait faire une recherche pour répondre à cette question-là. Hein. Moi, je réponds avec mes éléments.
Merci beaucoup pour ces précisions. Une question à Stelios, de manière à poursuivre. Vous avez mentionné qu'il y a une transmission de la mémoire via ces circulations musicales qui ne sont pas fixes, qui sont en perpétuelle évolution, justement, ça rejoint la dernière question. En quoi, finalement, on arrive à éviter les effets de la fixité d'une mise en patrimoine, une muséification, comme vous le dites, puisque vous faites la différence entre mise en patrimoine et processus de transmission, je dirais.
C'est une question hyper large, parce que c'est là tout l'enjeu, en fait. Comment ? Ouais, surtout que c'est un chapitre de ma thèse, en fait, que j'ai pas encore écrit. C'était aussi l'occasion d'en parler. Du coup, faites bien me poser la question. C'est là tout l'enjeu, en fait, c'est que... En fait, c'est des musiques patrimonialisées. Mais elles sont patrimonialisées partout. C'est-à-dire que tous les pays revendiquent l'appartenance de ces musiques-là. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir la Grèce qui a patrimonialisé les chansons par région. La Grèce, elle a un patrimoine musical qui est divisé en régions. Et de l'autre côté, on a la Turquie, plus tardivement, par le biais des institutions, par le biais de l'université, qui a patrimonialisé d'une autre manière les chansons d'Anatolie, les chansons... En fait, il faut y revenir, en fait. Pour y répondre, je ne peux pas vraiment y répondre de manière claire et concise, il faut revenir à l'histoire des musiques dans la construction nationale des deux pays, en fait. Et là, moi, comme la manière dont je peux répondre à cette question-là, c'est que les musiciens, en circulant, c'est-à-dire en sortant de l'espace national, en sortant des frontières de l'État-nation telles qu'elles ont été dessinées dans la construction nationale, en fait, elles redéfinissent ces musiques-là. Des musiques qui ont été patrimonialisées sur un territoire, quand elles passent de l'autre côté, on leur attribue des nouvelles significations et d'autres usages. Et c'est là où, en fait, elle sort de la fixité. Et je prends l'exemple du Rebetiko. C'est l'exemple, je pense que tout le monde connaît le nom. Voilà, c'est une musique qui est partie de la marge, qui est le fruit des circulations entre les deux pays, avec les États-Unis, etc. Et qui a été patrimonialisée en 2017. Or, tout l'enjeu du Rebetiko, c'est que c'est une musique qui s'est construite, qui continue d'évoluer en circulant. Et c'est là l'enjeu de la patrimonialisation entre les deux pays.